Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Ben bonjour à tous, on est heureux de revenir après quelques semaines d'absence dans ces studios. Donc bonjour Alain, bonjour Brigitte.
Bonjour. Et bonjour, bonjour à tous les auditeurs. On est très très heureux d'être présents parmi vous.
D'avoir été déconfinés.
On n'est pas encore déconfinés, mais, ouais. Mais bon, on va peut-être en dire un petit mot avant de commencer, puisque plusieurs semaines où on était confinés, on peut tirer peut-être un petit peu le bilan de ce qui s'est passé dans nos différentes communes.
Mais le bilan, ce qu'on peut dire dans nos communes rurales, ça a été le confinement, a été plus facile, bien sûr, comme d'habitude d'ailleurs, que dans les grandes villes ou les métropoles. Mais ça n'a pas empêché les Parisiens de descendre en masse dans leur résidence secondaire, ce que j'ai toujours un petit peu, entre parenthèses, reproché. Par contre, il y a quelque chose vraiment qui m'a beaucoup chagriné, et parce que je trouve que c'est complètement injuste, c'est le fait que les petits commerces soient obligés de fermer, de rester fermés. Et c'est vrai que quelque part, je ne vois pas la différence. Enfin, si, je vois une grosse différence entre les 400 personnes qui sont aux caisses des grandes surfaces et les deux personnes qui sont dans le magasin en train d'acheter des jouets ou en train d'acheter des chaussures. Voilà, c'est un petit peu le coup de gueule que je voudrais lancer. Mais il est bien évident que les maires ruraux soutiennent le commerce local.
Tu as beaucoup de magasins fermés dans ta commune ou aux alentours ?
Alors moi, ma commune, il y a 350 habitants. J'ai un commerce, j'ai qu'un commerce, c'est un restaurant, il est fermé. Ça fait maintenant pas mal de temps et c'est vrai que le patron se pose la question s'il va pouvoir continuer parce que, bien sûr, il n'a aucune aide, contrairement à ce que l'État peut dire sur les petits commerces. Ou alors certains ont 1500 euros, mais avec 1500 euros, qu'est-ce qu'on fait quand vous payez un loyer, quand vous payez des charges, quand vous payez tout ce qu'il y a à payer, c'est nettement insuffisant. Alors que l'État, on le voit bien, a sorti la planche à billets et dépense des millions et des millions pour les autres.
Et elle continuera à en payer parce que c'est toutes ces boîtes qui vont fermer, et ben c'est des chômages en perspective.
Exactement.
Et pour toi, dans ta commune
ben dans ma commune, on a tout bêtement, par exemple, les agences immobilières ne peuvent plus faire visiter de maison. Quand tu vas visiter une maison, tu es tout seul dedans avec le gars et un masque, et ça pose quoi comme problème ? Moi, j'ai des locations à louer, ben je ne peux pas faire visiter le logement. C'est un peu ridicule. Alors bien sûr, il faut prendre des règles, ok, mais il faut prendre des règles avec bon sens. Les gens comprennent quand il y a du bon sens. Quand il y a des choses qui n'ont pas de bon sens, les gens ne comprennent pas. À un moment, il faut arrêter un agent immobilier qui fait son job et qui fait visiter une maison vide. Il peut faire entrer quelqu'un. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Donc, il faut être juste. Et on manque de justesse dans ce pays. Voilà. C'est ça que les gens déplorent. Parce que quand on dit aux gens, c'est dur, ça ne sera pas, vous ne pouvez pas le faire, on ne le fera pas, les gens comprennent. Par contre, quand on dit tout et son contraire, et puis qu'on met dans les faits, et puis c'est toujours le coup de bâton, quoi. C'est le PV, vous devez avoir un papier, vous devez avoir ci, vous devez avoir ça. À un moment, les gens le supportent de moins en moins.
Mais le malheur, Brigitte, c'est que sur nos frontons de mairie, il y a marqué liberté, on n'en a plus. Égalité.
Il faut la chercher.
Et fraternité, alors là, c'est encore pire.
Ben là, ça devient... Les gens sont un peu plus... Voilà, je dirais à bout de nerfs. À bout de nerfs, et puis rien les révolte. Bon, alors, après...
Juste une petite question comme ça pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par rapport à certaines mairies pour aider ces commerçants qui ferment, style...
Alors,
diminuer la taxe foncière ou
l'exonérer... Pour la MRF, tu sais qu'on avait lancé une opération qui s'appelait Bouge ton coq sur des fonds qui avaient été récupérés, et on avait distribué des chèques de 1500 euros aux petits commerces. On en a distribué quelques-uns en Dordogne, puisque c'était réparti sur tout le territoire national. Moi, je sais que je suis allé en remettre plusieurs. Donc ça, c'était dans le premier confinement. Dans le deuxième, il en restait un petit peu. Donc dans le département, on n'en a pas eu, parce qu'il y a des départements beaucoup plus touchés au niveau des commerces. Mais quelque part, c'est vrai que c'est très, très difficile pour nos entreprises. Alors le plan de relance... Brigitte en parlait tout à l'heure, parce qu'elle, elle est... on va vous l'annoncer aujourd'hui, il y a un rapprochement par rapport à l'intérêt des communes avec l'Union des maires de la Dordogne. Et c'est une bonne chose. Il vaut mieux qu'on soit unis plutôt que désunis. Et c'est vrai que ce plan de relance, on attend que le préfet s'en empare un peu plus pour avoir des projets.
Un peu plus, t'es léger, s'en empare tout court. Parce qu'on a reçu la circulaire du Premier ministre, a été publiée le 23 octobre pour une application immédiate. Madame la préfète de région est montée au créneau en demandant au préfet de faire des commissions avec des élus dans tous les départements. Mais à ce jour, pas de sollicitation de notre préfet. Ça veut dire que depuis le 23 octobre, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait en Dordogne ? Parce que les gens vont penser qu'on a un plan de relance et qu'on a de l'argent. Sauf que sur ce plan de relance, il y a 16 milliards seulement, je dirais, sur les 100 millions, sur les 100 milliards qui sont dus aux communes et distribués par les préfets. Sauf que c'est au bon vouloir des préfets. Donc à un moment, si on n'a pas de commission pour dire comment on peut avoir l'argent, sous quelles conditions, quel est l'autofinancement qui reste aux communes, parce que même s'ils subventionnent à 50%, si vous avez les 50% autres à mettre au bout, est-ce qu'elle est cumulable avec d'autres choses? Alors on sait par la petite porte qu'elle peut être cumulable, mais officiellement, on ne sait rien. Et donc on n'a pas eu l'honneur de recevoir monsieur le préfet dans notre communauté, ça sera fait début décembre. Peut-être qu'il se garde à ce moment-là l'honneur de nous annoncer ça, sauf que Madame Courault et puis monsieur Joël
Guiraud
nous a annoncé le contraire en disant que ce plan de relance il était pour les communes et qu'il fallait qu'on s'en empare. Sauf qu'on s'empare de quoi si tu sais pas comment ni pourquoi? C'est compliqué.
Tu as soulevé un problème majeur pour les communes rurales. C'est que ces aides, il faut quand même que la commune, elle y participe.
Et
donc, c'est vrai que quand tu as un projet de 100 000 euros sur une commune de 150 habitants, la commune sera tenue d'en verser au minimum 20 000.
Ouais. Donc, c'est au minimum, c'est vrai parce que tu n'auras jamais...
Voilà, ouais. Minimum. Mais minimum. Aujourd'hui, les montants maximum des aides, c'est de l'ordre de 40 à 60%.
Oui, mais je vais donner...
Et à 60%, on est bien aidé.
Je peux donner un exemple. Moi, je suis en train de faire mon assainissement. J'en ai pour 1 270 000 euros pour une commune de 505 habitants, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il a fallu mettre de l'argent de côté pour avoir d'autofinancement. Je suis subventionné qu'à 55%. Donc, ça veut dire que le bout, c'est la commune qui les met. Donc, on subventionne à quoi? Puis maintenant, tous les grands chantiers qui sont entamés, elles n'ouvrent pas droit à ça non plus, parce qu'on pourrait, là. Mon chantier va durer jusqu'au mois de juillet ou août 2021. Donc, est-ce qu'on aurait pu aussi... ça permet de faire travailler nos sociétés et tout ça. Donc, on ne sait pas ce pourquoi ça va être fait et comment, parce que beaucoup de communes non plus n'ont pas les dossiers prêts. Est-ce que ça va être les métropoles qui ont des services pour faire les études? Parce que souvent, les métropoles, les grandes villes, elles ont des services qui étudient la faisabilité de tel ou tel projet. Donc quand on leur dit, vous allez avoir de l'argent là-dessus, ils ont un dossier à filer. Nous, les petites communes, comme Alain et moi, si tu n'as pas de dossier en attente, vite, il faut consommer les budgets. T'as rien à leur donner. Et en plus, il faut, comme on disait, avoir l'autofinancement.
Oui, je vais reprendre quelques petites questions comme ça pour bien préciser à nos auditeurs. Vraiment, par rapport aux petites communes, moi, les questions que je posais tout à l'heure, c'était par rapport aux commerces qui sont fermés, style une coiffeuse qui, ça fait 2 mois qu'elle ne travaille plus, un restaurateur qui ne travaille plus. Quelles aides on peut donner à ces personnes pour qu'ils... que le commerce soit maintenu par la suite, parce que ce sont des gens qui ne gagnent pas des millions et des millions. Mais le peu de clientèle qu'ils ont, ça les fait vivre.
Ils gagnent juste de quoi vivre.
Et donc là, quelles aides on peut pour permettre effectivement de maintenir ces commerces qui peuvent apparaître à un moment donné, comme du service public aussi.
Je peux te rappeler quand même que les communes ou les communautés de communes, et même le département, n'a pas la compétence économie, puisque le département de la Dordogne voulait justement aider et il faut qu'on passe par la région. C'est la région qui a la compétence économique. Donc on a plein de soucis. Alors, au niveau des CDCI, des communautés de communes, par exemple, nous, on a deux restaurants qui sont communautaires. On fait... Des cadeaux sur les loyers parce qu'on est les bailleurs, donc on peut se permettre de dire, vous ne paierez pas le loyer, mais en dehors de ça, comment tu veux donner de l'argent? On n'a pas de l'argent non plus
par exemple,
à distribuer.
Une certaine exonération de la taxe foncière,
mais la taxe foncière, c'est
la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, 80%... je parle de la taxe d'habitation. 80% des gens ne la payent plus. Bon, il en reste 20%, mais c'est certainement les plus riches. Pour la taxe foncière, c'est sûr. Mais si une commune rurale... commencent à revenir exonérés. Sur les taxes foncières. C'est le seul impôt aujourd'hui.
Le seul revenu
qu'a la commune. Donc ça va paraître difficile parce qu'il faut que la commune elle puisse vivre aussi.
Mmh. Puis bon, une taxe...
et sachant que nous, on nous a amputé déjà depuis bien longtemps de 30% de nos revenus. Donc quelque part, quand je... Si on peut dire que les 100 milliards... Enfin, pas les 100 milliards, tu as dit tout à l'heure. C'est 16 milliards pour les communes rurales. En définitive, ils nous en ont pris 30.
En quelques années,
et puis là, ils vont gracieusement nous en rendre 16. Mmh. Ça veut dire qu'il en manque encore 14.
Voilà. Donc, et puis, voilà, je voulais rajouter la taxe foncière. Tu parles d'une ville comme Périgueux ou comme Bergerac, ou une ville assez grande, la taxe foncière est importante. Nous, dans nos villages, si tu es une coiffeuse, la taxe foncière, ça ne va pas très loin. Alors, je veux bien lui en faire cadeau, mais c'est une fois par an. Enfin, je veux dire, voilà, un moment. Et puis, comme tu dis, on ne peut pas non plus se couper de toutes nos ressources, parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi.
Oui, non, mais c'est le gros problème dans lequel on est confronté, des baisses de subventions.
Non, mais c'est clair.
Puis,
non,
mais
les baisses de donations, de dotations.
Gérard,
de
c'est clair aujourd'hui, c'est clair que pour le monde rural, la seule solution, c'était de laisser ouvrir les commerces locaux. Tout en sachant que ces gens-là, on s'en est bien rendu compte, on est garant de ça, nous les maires, c'est que ces gens-là respectaient les barrières sanitaires mieux que les grandes surfaces ou qu'ailleurs. C'est ça le problème. C'est que c'est la liberté de travail qu'on a enlevée là. Et ça, comme je dis, on a perdu nos libertés. C'est pas logique. C'est pas logique et il faut qu'on se batte là-dessus. Mais tu sais, comme je le dis, les maires ruraux, on a ça viscéralement, et d'ailleurs, tous les maires ruraux, et nous avons ça dans la peau, c'est presque une vocation, et nous aurons toujours l'ambition et peut-être la folie de croire au devenir de nos villages, mais aujourd'hui, ça marche. Ça marche, et on va en parler tout à l'heure sur l'agenda rural, on va en parler par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, les maires ruraux sont écoutés. On a au moins sauvé ça. On a sauvé ça, on l'a sauvé grâce à nos cahiers de doléances, on l'a sauvé grâce à toutes les actions qu'on a pu mener, on l'a sauvé par beaucoup de pédagogie, on l'a sauvé par beaucoup de proximité auprès de nos populations, et c'est, les gens, ils apprécient ça.
On pourrait dire, sous un effet d'humour, merci au Covid, à la Covid-19.
Non, non, non,
merci aux gilets jaunes aussi, tu peux rajouter, parce que les cahiers de doléances, c'était ça.
Entre guillemets, mais parce bon, que ça a permis de mettre les autorités devant le fait accompli
et
de voir qu'effectivement, les maires sont un acteur...
J'aime l'humour, mais l'humour un peu noir, ça me dérange un peu plus.
Non, c'est vrai que là, ils sont en train de nous passer de la pommade. On va voir à combien ça va payer, surtout.
Encore juste 2 minutes avant la petite pause, donc si...
Mais je voudrais qu'on parle de notre Assemblée Générale. C'est important parce que ça a été un véritable succès, même si c'était en visioconférence. C'est fort dommage. Mais on a eu quand même, dans cette visioconférence, la venue du Premier ministre. On a eu quand même 5 ou 6 ministres. Donc on a su beaucoup de choses. Et je voudrais quand même qu'on en parle un petit peu.
On va en parler juste après la pause.
On en parle après la pause. On laisse nos auditeurs écouter ce merveilleux chanteur qui dit beaucoup de choses vraies. Donc,
à tout de suite.
À vous les studios pour la belle musique.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses 2 dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Vous allez nous parler de l'Assemblée Générale Nationale de l'association. Peut-être, tu vas peut-être dire un petit mot sur le départ de Yannick, parce que je crois que c'est pour des problèmes de santé qu'il a dû quitter la présidence. Donc, tu peux nous dire un petit mot.
Oui, Yannick Berberian, qui n'est plus notre président, mais qui reste quand même premier vice-président, parce que pour des causes de santé, très malade, maladie... Du jour, enfin pas le Covid bien sûr, mais l'autre, et donc il a reçu un très très bel hommage de tous les maires de l'association et de tout le bureau, donc on espère que Vanik pourra revenir très très bientôt, mais d'ores et déjà Michel Fournier, notre nouveau président, était ancien premier vice-président et fait de l'excellent travail aussi, donc on n'est pas inquiet par rapport à ça, on est plus inquiet sur la santé de Vanik. Voilà, donc cette assemblée générale a été, malgré qu'on soit un peu, comme dit Brigitte et d'autres membres du bureau qui avaient l'habitude d'aller à Lyon, on préfère que ça soit des réunions où on se déplace et où on est autour de la table. Mais bon, là, vu le Covid, on n'a pas pu. C'était en visioconférence. On a eu le matin le rapport sur la ruralité en direct avec le Premier ministre. On n'était pas nombreux. Lors de la Dordogne, on avait... trois grands électeurs, donc Brigitte Cabirol, Bernard Pigenot et moi-même. Donc nous avons suivi cet atelier de toute la matinée où le Premier ministre est revenu sur tout ce qu'il avait dit la veille, sur le Covid. Et puis l'après-midi, nous avons notre Assemblée Générale avec l'élection donc du nouveau président, du nouveau bureau et bien sûr d'un conseil d'administration où j'ai eu l'honneur d'être élu. Donc je rentre dans le conseil d'administration national de la MRF et en même temps, ils ont souhaité que je sois le référent de la Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, on va travailler en binôme avec mon collègue président de la Gironde, Daniel Barbe, qui lui est passé vice-président au niveau du bureau. Donc ça fait un beau binôme, on va pouvoir bien travailler, on va réunir tous les présidents de chaque département et puis partir sur les projets et surtout sur l'agenda rural qui est en train de mettre, l'agenda rural qui est notre bébé, nous les maires ruraux, qui va être mis en place par Joël Guiraud, notre nouveau secrétaire d'État à la ruralité. Donc l'après-midi, en présence de plusieurs ministres, dont Jacqueline Gouraud. Donc nous avons eu aussi le matin des interventions de pas mal de ministres, chacun parlant des choses qui le concernent, la santé, Véran, Bachelot, la culture, voilà, toutes ces choses-là. Donc je ne vais pas revenir dessus, cette élection est faite, maintenant il faut se mettre au travail. Alors pour se mettre au travail, bien sûr, on a commencé par l'agenda rural, déjà des choses sont acquises. J'en avais déjà parlé avant les élections. Les choses sont acquises, comme la revalorisation des indemnités des maires ruraux et surtout des adjoints, la nouvelle gouvernance des EPCI. Donc cette nouvelle gouvernance va se mettre en place. Et c'est vrai que quelque part, on s'est bien rendu compte que les préfets n'avaient pas pris ça en main, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai rappelé aux nôtres que dans la loi engagement et proximité, on devait parler du pouvoir des maires, parce que on parle du pouvoir des maires, mais on nous les a tous enlevés, pratiquement. Donc, la loi engagement et proximité impose au procureur de la République de réunir les maires pour leur parler de ces problèmes-là. Donc, moi, j'ai rappelé ça au préfet, qui, bien sûr, a été d'accord pour relancer les deux procureurs de la Dordogne, de façon que chacun dans son territoire puisse faire ses réunions avec les maires, parce qu'on a vraiment besoin de parler de ce pouvoir des maires. Voilà. Ça, c'était des points qui étaient acquis déjà et qui étaient sur la loi engagement et proximité. Maintenant, l'agenda rural est en train de se mettre en place. Beaucoup de choses ont été dites sur cet agenda rural. Bon, bien sûr, ça va concerner surtout la santé, ça va surtout concerner l'économie, ça va concerner la mobilité, ça va concerner le numérique, énormément de choses, et qui seront rapportées, bien sûr, ou calquées par département. Donc, par exemple, moi, je vais regarder ce qui se suit au niveau du numérique, parce qu'aujourd'hui, le président du département nous promet que toute la Dordogne sera fibrée en 2025, mais quand je vois le nombre d'entreprises sur le secteur et le nombre de personnes qu'il y a au syndicat mixte Périgord Numérique, je me pose la question de savoir, et je suis pratiquement sûr aujourd'hui, qu'il y aura, même si ça avance plus vite, qu'il y aura du retard. Ça, c'est évident. Et on voit sur le terrain que mes propos sont justes et que ça sera difficile. Mais il va vite comprendre le président du département, parce qu'aujourd'hui, quand un jeune veut s'installer dans nos communes, la première chose qu'il demande, est-ce qu'il y a Internet. Voilà. Ça, c'est des sujets récurrents, mais bon, je ne vais pas revenir, j'en ai parlé d'un, mais peut-être Brigitte tout à l'heure parlera sur sa spécialité qu'est l'école et puis les transports scolaires. Par contre, ce qu'on a décidé aussi dans cette assemblée générale, c'est que on aura des spécialistes. Et donc moi, j'ai été nommé référent national pour à France Numérique. Je continue ma mission et donc je suivrai surtout aussi la téléphonie mobile. Alors, là-dessus, on a énormément avancé dans le département, puisqu'on a 55 pylônes qui arrivent. Il y en aura davantage, mais j'en reparlerai lors d'une prochaine émission. On fera peut-être une émission spéciale sur le numérique, parce que les gens l'attendent. J'ai assez parlé maintenant sur l'Assemblée générale. Je vais laisser un peu le relais à Brigitte, qui va vous parler peut-être un peu des sujets qu'elle connaît mieux.
Ouais. Alors, je voulais rebondir sur le numérique. Là, tu nous parles de numérique, chose qui est très bien. Mais par contre, j'ai été alertée, et là, c'est par l'Union des maires, des maires de la Dordogne, par la démarche d'adressage qui est menée en Dordogne. En fait, l'adressage, il va être indispensable, c'est-à-dire nommer les maisons, oui, nommer les rues. Et
pas indispensable, obligatoire.
Obligatoire, mais indispensable aussi pour tout, mais indispensable aussi pour recevoir le numérique. Si tu veux être fibré, il faut fournir une adresse avec un numéro, un nom de voie. Et on déplore, nous, l'Union des maires et les maires ruraux aussi, qu'il n'y ait que 269 communes sur les 500 qui sont en cours, soit engagées, soit qui l'ont fait, soit qui sont en cours d'adressage. Ça veut dire qu'on en laisse 200, voilà, et qui n'ont entrepris aucune démarche pour faire l'adressage. Donc, les maires vont être sollicités pour passer à ça, parce que c'est une obligation. Par contre, ce qu'on pourrait penser, c'est que les citoyens peuvent aussi se rapprocher de leurs élus pour leur dire où est-ce que s'en en est de l'adressage, puisque si on veut être fibré, il nous faut une adresse, donnez-nous une adresse. Je pense qu'il faut absolument, il y a de nouveaux élus, on ne sait pas tous l'obligation d'avoir une adresse pour les secours, pour tout le reste, pour les colis, mais c'est essentiel pour le numérique.
Alors, je vais juste une petite question, parce que
Bon, l'adressage, ça a quand même un coût.
Oui, pour, c'est pas très coût.
J'allais y venir. Moi, je suis en train de le faire. Pour une commune de 350 habitants, ça va me revenir à plus de 10 000 euros.
Alors, tu as trois. Moi, je paye. Donc, l'ATD qui t'aide, c'est l'Agence technique départementale. Ce qui a après un coût, bien sûr, c'est l'achat des panneaux, des noms de rue et des numéros, si tu dois les fournir.
Mais l'ATD,
c'est
vrai tu la payes aussi.
C'est vrai que ça a. L'ATD, j'ai payé 600 euros. C'est tout ce que j'ai payé, puisque c'est moi qui fais la formation et tout. Donc, et je l'ai faite. Pourquoi ? Parce que j'ai deux secrétaires, mais à mi-temps. Donc, quand t'envoies quelqu'un faire une chose. T'as une secrétaire qui fait 12 heures et l'autre qui en fait 10 ou 14, c'est un peu compliqué, donc je m'y suis collée.
C'est pour ça que je posais un petit peu la question, parce que pour les toutes petites communes où il y a 100, 150...
Mais on peut penser que t'as moins de voix et que
oui, mais ils ont surtout moins de personnel pour préparer les dossiers.
Non, mais préparer les dossiers, moi je l'ai fait.
C'est pas ça le plus grave. Le plus grave, et moi je le demande, et on l'a demandé à la MRF, c'est qu'on ne peut pas obtenir de la DETR, il n'y a pas de subvention. C'est-à-dire, c'est tout à la charge de la commune.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est là qu'il y a un problème. Mmh. Et on va le faire remonter à la MRF. Il faut absolument que l'adressage, à partir du moment où c'est obligatoire pour le numérique, il faut absolument que les aides de la DETR rentrent dans le pot commun des subventions, de façon que les communes puissent avoir minima 30% d'aide.
Moi, pour ma communauté de communes, donc Montpon, île double landais, la compétence voirie étant communautaire, la communauté nous a payé les panneaux de voie et était à la charge de la commune que les numéros que l'on donnera à nos concitoyens. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie. Quand tu commences à le faire, il faut que tu cherches de l'argent.
Oui, c'est une bonne chose. Mais qui paye à la communauté de communes?
C'est nous. Oui, mais ça aide un peu, ça dilue, tu vois.
Oui, ça diminue.
Il y avait autre chose aussi dont je voulais vous parler. C'était, tout le monde a reçu le dossier de catastrophe naturelle. Alors, tout le monde est déçu.
C'est un sujet majeur aussi.
Un sujet majeur. 21 communes ont été retenues, c'est-à-dire d'abord 21 communes sur...
507.
Mais 210 qui avaient demandé bénéficier. Oui. Donc, on a vu que, finalement, 21 communes,
10%.
Et je pense qu'il faut interpeller nos parlementaires pour qu'il y ait une évolution législative, en fait. Parce que la loi, elle est ce qu'elle est. Quand ils nous envoient les dossiers en disant que vous n'avez pas été retenus, c'est complètement opaque. Alors nous, quand on dit à nos gens chez nous, à nos administrés, qu'on n'est pas retenu, qu'il y a un avis défavorable, ils ne comprennent pas. Ils doivent se dire, le maire, il ne vaut rien, elle n'arrive pas à nous défendre. 21 communes sur 210, selon quels critères? Puisque tu as la commune d'à côté qui est à 2 km à vol d'oiseau, qui est retenue parce qu'elle a eu 4 jours de soleil de plus que la tienne. Tu commences à te poser des questions quand même. Tu te dis, comme dirait la maire de je ne sais plus quelle ville, elle dit, il y a un microclimat chez moi, j'ai eu 4 jours de moins de soleil que celle d'à côté qui est retenue. Donc à un moment, il y a une opacité, il y a une chose qui ne va pas, et puis 21 communes, surtout 210 communes. Alors, chacun dit que les dossiers doivent être très pointus, c'est-à-dire qu'il faut savoir le nombre de jours ensoleillés, le nombre de jours humides, la quantité de pluie, tout ça. Mais en fait, on a beaucoup de dossiers qui sont reconduits d'une année sur l'autre. Moi, j'ai des dossiers, ça fait 3 ans, parce que les gens, la maison, elle est fendue, elle ne s'est pas remise l'année d'après. Donc au contraire, ça s'est accentué. Et par contre, ce qu'il faut que les gens sachent quand même, que ce n'est pas la faute du maire. Nous, on déclare en préfecture qu'on a des demandes de catastrophes naturelles, sauf que les photos et tout ce qu'on a, c'est gardé en mairie. Donc sur quelle base pour juger ça, ils font tout à fait confiance à Météo France, et puis le reste, on ne regarde pas les dossiers de près, quoi. Donc moi, je demande à ce qu'il y ait une révision là-dessus, et je pense qu'il faudra que ça soit la MRF ou l'UDM interroger nos parlementaires. C'est à eux de faire le job.
C'est très bien. Les deux sujets dont tu as parlé, Brigitte, je suis tout à fait d'accord et dans la même ligne qu'elle. C'est des sujets qui sont en train de revenir dans nos communes. Et donc, la MRF aujourd'hui travaille sur ces sujets-là. Donc, bien sûr, notre association, elle est complètement indépendante, donc ça nous permet de dire ce qu'on a envie de dire. D'ailleurs, je vais vous lire... sur le dernier rapport de Pierre Gentès, qui est un ami, qui est le président de la MR 43, qui dit que les associations départementales de maires ruraux ne sont pas sous la dépendance de telle ou telle majorité départementale ou encore d'un parti politique. alors que les autres le sont. Et nous sommes surtout au service d'un dynamisme territorial garant de la proximité des services en milieu rural. Ça, c'est super important. Et comme dirait, et comme a dit en conclusion notre nouveau président des maires ruraux, nous sommes à jamais libres et non incorporables. C'est tout à fait une phrase qui me plaît beaucoup, parce que c'est la particularité des maires ruraux.
Oui, et puis de notre président, parce que tous ceux qui te connaissent pensent que tu n'es pas incorporable, tu es perdu.
Donc on va finir sur cette belle phrase, et on se retrouve le mois prochain avec nos auditeurs.
Alors, avec nos auditeurs, et certainement que nous aurons des sujets à aborder, des sujets qui sont beaucoup plus départementaux. Et puis peut-être qu'on est en train de réfléchir, de modifier un petit peu notre système, et nous essaierons peut-être d'avoir un invité un peu particulier. Donc je voulais remercier tous les maires qui ont voté pour ma pomme, que je voudrais dire, enfin, pour ma candidature et celle de Brigitte pour les sénatoriales. Nous sommes assez satisfaits, alors déçus d'avoir pas été élus, parce que ça aurait fait du changement au Sénat alors que rien ne va bouger. Mais c'est vrai que d'avoir fait 170 voix, 170 maires qui ont voté pour nous, ça nous a fait chaud au cœur. On les remercie énormément.
Voilà. Merci à toi. Oh. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Au mois prochain.